Écoutez le général Leclerc.
En novembre 1946, deux ans après la libération de Strasbourg, le général Leclerc est de retour en Alsace.
Aujourd'hui, où tant de ruines doivent être relevées, ça fait du bien de revenir en Alsace, de faire ce pèlerinage, en pensant à nos morts qui reposent dans les cimetières alsaciens.
Leclerc vient s'assurer que les Strasbourgeois se souviendront.
N'oublions pas aujourd'hui ceux qui ont payé de leur vie votre libération. Nous n'avons pas le droit de gaspiller le prix de leur sang. Nous autres, Français de toutes les provinces, d'Algérie et d'ailleurs, nous voulons relever le pays pour éviter à l'Alsace et à la Lorraine des épreuves comme celle d'hier.
Et devant des milliers d'Alsaciens, Leclerc veut protéger l'avenir.
Vous m'avez fait citoyen d'honneur. Je n'y vois pas une simple formalité, mais j'y trouve une obligation de mettre tout en œuvre pour que ces drames ne se reproduisent pas.
La campagne d'Alsace, durant l'automne 1944, ce fut à la fois la fin de l'occupation allemande en France et la promesse tenue du général Leclerc.
Écoutez le général Leclerc.
La France de De Gaulle, celle qui a refusé de cesser le feu, retrouve la France de l'intérieur, celle qui a refusé de courber le front.
La libération de Paris, en août 1944, a engendré une grande vague de liesse populaire, assurant à Leclerc et aux insurgés parisiens une gloire méritée. Mais dans l'esprit du général Picard, l'épopée n'est pas aboutie. Il rêve de hisser le drapeau tricolore sur la flèche de la cathédrale de Strasbourg. Alors, il reprend la route et s'élance vers l'est, car il faut tenir le serment de Couffrat.
Jurer de ne déposer les armes que lorsque nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg.
Seulement voilà, sur son chemin se dresse désormais un rival gaulliste, le général Delattre de Tassigny.
Mon général.
Et en quelques semaines, cette chevauchée vers l'Alsace se transforme en un duel entre les deux officiers. Dans ce nouvel épisode, vous allez comprendre comment l'audace et la liberté de Leclerc se sont heurtées aux impératifs de la vie politique.
Philippe de Haute-Cloc n'est plus. Le général Leclerc est entré dans la légende.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez La cavale du général Leclerc. Sixième épisode, Le nid de l'aigle.
Quel homme était-il ?
Leclerc, c'était le héros, c'était le type pur.
C'était l'efficacité, c'était la loyauté et c'était la rapidité.
Quel homme était-il ?
C'était un homme intérieur, c'était un homme spirituel aussi, je crois.
Pour Leclerc, il suffit.
Adoré de ses hommes à l'égal d'un souverain ou d'un prophète, il avait inspiré l'esprit qui l'animait à toute cette division.
Juif, chrétien, musulman, héritier de la vieille France aristocratique et paysans arabes, ouvriers de la banlieue parisienne, évadés d'Alsace.
Et à Berlin.
Cette épopée Leclerc, cette épopée de la France libre, chantera toujours sur des syllabes claires et sur des accents de triomphe qui sont ceux du nom de Leclerc de Haute-Cloc.
Le récit débute dans la campagne du château de Tailly, dans la Somme, au tout début du mois de septembre 1944. Après avoir libéré Paris, le général Leclerc s'octroie 24 heures pour retrouver les siens en Picardie après 4 ans de séparation. Thérèse de Haute-Cloc, son épouse, s'en souvenait très bien, en 1972.
Le général est venu, alors il est arrivé en avion. On ne s'attendait absolument pas à le voir. J'ai même pensé que c'était un avion qui avait raté le terrain d'atterrissage de Poix, qui est à quelques kilomètres d'ici. J'étais moi-même à travers champs avec mes plus jeunes enfants. J'ai été rejoint par quelqu'un à bicyclette, quelqu'un qui travaillait ici, et qui est venu me dire « il y a du nouveau chez vous ». J'ai dit « c'est le général ?» Il dit « oui ». Je lui ai dit « donne-moi ta bicyclette ». Et je suis reparti avec sa bicyclette, et je n'avais pas fait 200 mètres, que mon mari arrivait, lui aussi, ayant emprunté ici une bicyclette. Nous sommes donc retrouvés sur la route nationale numéro 1. en bicyclette tous les deux, nous étant séparés également en bicyclette le 3 juillet 1940.
Il a pu passer quelques jours avec vous ?
Oh, il a passé une journée et puis il est reparti parce que c'était la campagne de Lorraine qui commençait. Ils sont partis le 8 septembre, alors il fallait qu'ils se dépêchent puisqu'il est reparti le 7 au matin.
Le général Leclerc repart aussitôt, accompagné de ses deux fils, Hubert et Henri, engagés volontaires dans la deuxième DB de leur père. De retour à Paris, avant de s'élancer vers Strasbourg, Leclerc partage ses réflexions dans une lettre au général de Gaulle.
Ces quelques jours à Paris n'ont pas été inutiles du fait de la composition large et variée de la division. J'ai pu tâter le pouls actuel de milieux très différents. Voici mon opinion personnelle sur la mentalité des Français jeunes.
Rassemblement, colonne par 8 !
Qu'ils soient anciens camelots du roi ou communistes militants, la principale chose que ces Français ne désirent pas revoir, c'est le régime bourgeois et bureaucratique d'hier et d'avant-hier. La trahison de Vichy a redoré provisoirement le blason de nos hommes politiques de 1940. Mais auprès des jeunes, cela ne prend pas et ne durera pas. Tous ces jeunes sont encore à l'heure actuelle des patriotes du fait de l'occupation allemande et des souffrances endurées. La lutte des classes n'a pas encore repris le dessus malgré les efforts du Popu et autres feuilles.
Demandez l'humanité, organe central du Parti communiste français.
Bonjour camarades.
En résumé, bien qu'étant moi-même de famille bourgeoise, terrienne, ayant des intérêts importants dans la grande industrie, je suis convaincu que la France n'échappera pas à une révolution. Les jeunes générations ne l'admettraient pas. Puissiez-vous trouver l'équipe d'auxiliaires nouveaux et courageux nécessaires pour faire et diriger vous-même cette révolution.
De retour en France, Leclerc a conscience que le monde d'après ne pourra pas ressembler au monde d'avant. Mais pour l'instant, la guerre n'est pas finie. Il faut achever la libération du territoire aux côtés des Alliés et la deuxième DB poursuit donc sa chevauchée vers l'est de la France.
On ne s'arrête pas, on continue ! On avance !
Cette campagne d'Alsace est un moment compliqué dans la mesure où c'est une période durant laquelle les Alliés, qui ont dû faire une pause pour des raisons logistiques, ils avaient avancé tellement vite que l'intendance ne suivait plus, si l'on peut dire. Une période donc durant laquelle les Alliés reprennent le mouvement et donc doivent rencontrer des Allemands de plus en plus tenaces, c'est dire, parce que de mieux en mieux retranchés, et aussi ces Allemands de plus en plus proches du territoire national allemand. Et donc fermement décidé à ne rien laisser passer.
L'historien Guillaume Piketty.
Donc ce sont des combats très difficiles pour l'ensemble des forces alliées et pour les Allemands. A fortiori dans la mesure où la météo n'est pas favorable. C'est normal, c'est l'automne. Mais c'est néanmoins un moment durant lequel les forces alliées reprennent l'initiative. Et dans ces forces alliées, il y a la 2e division blindée qui, cette fois, a un objectif qui s'appelle Strasbourg. Pour des raisons officielles évidentes, Strasbourg, c'est la capitale de l'Alsace. C'est donc la capitale d'une zone très disputée entre la France et l'Allemagne. Et donc, symboliquement, ce serait bien que ce soit des Français qui entrent les premiers à Strasbourg pour marquer le coup face aux Allemands. Et puis, bien sûr, il y a l'autre objectif des hommes de Leclerc, en tout cas de ceux qui étaient avec lui au mois de mars 1941, c'est-à-dire la chevauchée ne sera complète, et la gloire ne sera complète que lorsque le serment de Couffrat aura été accompli en prenant Strasbourg. Voilà. Et donc il y a cette campagne d'Alsace, c'est une campagne très difficile, mais avec cet objectif extraordinaire qu'est Strasbourg, et l'idée d'accomplir le serment.
De leur côté, les troupes du général Leclerc se mettent en route pour Strasbourg. L'étape symbolique est commencée. Aucun obstacle n'arrêtera plus les machines ni les hommes.
Archives ECPAD, automne 1944.
Et l'on passe. Toutes les forces, tous les courages sont attirés irrésistiblement vers la flèche aimantée de cette cathédrale qu'aucun Français ne peut voir sans un battement de cœur.
Cet objectif de libérer Strasbourg est sous-tendu par une rivalité entre deux officiers français, Leclerc et Delattre de Tassigny.
Alors, la rivalité entre Leclerc et Delattre à ce moment-là, d'une certaine façon, n'existe pas. Elle n'existe pas puisque Leclerc est un général de division, il a 3 étoiles, et donc il doit saluer à 10 pas le général Delattre de Tassigny qui a 5 étoiles. Général d'armée, bah.
En général.
Mais elle existe parce que s'opposent là 2 tempéraments et s'opposent là aussi 2 parcours pendant la guerre.
D'abord, qui est le général Jean Delattre de Tassigny ?
Jean-Marie Gabriel Delattre de Tassigny est né le 2 février 1889 à Mouilleron-en-Parais, village de Vendée. La maison où il voit le jour est simple et charmante. Il y naît coiffé, présage d'une chance exceptionnelle selon la superstition.
Né en 1889, il appartient à la même génération que le général de Gaulle. Il est donc plus âgé que Leclerc. Delattre a vécu l'expérience de la Grande Guerre. Et puis il a été proche du cabinet de Philippe Pétain durant les années 30. Alors, quelle a été son attitude après la prise du pouvoir par le vieux maréchal ?
À partir de 1940, Delattre, c'est quelqu'un qui va adhérer à Vichy, pas forcément idéologiquement, même si c'est quelqu'un de conservateur, mais en tout cas, il va adhérer à cette idée selon laquelle il faut, au fond, reporter le combat contre l'Allemagne, il viendra en son temps, etc.
Claire Millot, historienne.
Il accepte les honneurs de Vichy. Il aurait souhaité être secrétaire à la guerre. Il aurait beaucoup aimé également être à la tête des chantiers de la jeunesse qui finalement sont donnés à la porte du Theil. Bref, n'en faisons vraiment pas un résistant de la première heure, à la différence donc de Leclerc. Et puis, on lui confie le commandement des troupes en Tunisie. Quand il est envoyé en Tunisie, il doit défendre, c'est vraiment la doctrine de Vichy, l'empire contre quiconque, c'est-à-dire contre les Britanniques et contre les Italiens et les Allemands, donc de la même manière. Et c'est là qu'on a l'impression quand même qu'il commence à plus préparer la défense de la Tunisie contre les Allemands et les Italiens que contre les Britanniques. Donc, voilà peut-être un petit glissement, et un glissement tel qu'il est rappelé en métropole à la tête de la région militaire de Montpellier, donc on est en 1942. Et à partir de là, eh bien, il va quand même être sondé par la résistance intérieure. Il aurait été approché par un proche de Jean Moulin, il n'aurait pas donné suite, mais ça dit quelque chose. C'est-à-dire qu'il commence à être considéré par la résistance intérieure ou par une partie de la résistance intérieure comme l'aile, disons, potentiellement dissidente de l'armée de Vichy. Et cette dissidence, elle a lieu en novembre 1942, donc au moment de l'invasion de la zone sud par les troupes allemandes en représailles, si je puis dire, au débarquement anglo-américain en Afrique du Nord. Là, de ce point de vue-là, Delattre n'obéit pas, ne suit pas les ordres, c'est-à-dire les ordres qui consistaient de ne pas bouger les troupes, il bouge ses troupes. Bon. Il est arrêté, il est d'abord emprisonné à la prison de Montluc, puis il est jugé. Alors, il n'est pas jugé pour haute trahison, ce qui lui aurait valu probablement la peine de mort. Il est jugé pour abandon de poste et pour acte de nature à nuire à la défense nationale, ce qui lui vaut 10 ans de prison. Il est enfermé à la prison de Rion, d'où il finit par s'échapper, du coup avec la complicité d'une partie de la résistance intérieure, et avec cette même complicité, il rejoint Londres, où il se met immédiatement sous les ordres du général de Gaulle. Et en fait, il séduit énormément l'entourage du général de Gaulle. Je suis tombée sur des textes de Passy, qui est à la tête du BCRA, des services de renseignement de la France libre, qui en gros dit « Ok, celui-là, il est avec nous ». En fait, c'est un fin politique, il faut le dire. Il arrive à convaincre son monde que ce retournement au fond d'engagement, il est vraiment sincère.
Fin 1943, Delattre rejoint Alger et devient l'un des grands chefs de l'armée de libération.
Le général de Gaulle vient d'aller rendre visite, quelque part en Afrique du Nord, aux troupes commandées par le général Delattre de Tassigny.
Archives Radio Londres, 1944.
Parmi ces troupes se mêlent soldats de la métropole et soldats de l'Empire. Ils ont été ensemble à la peine. Il n'est que juste qu'ils soient ensemble à l'honneur de préparer la victoire.
Revenons au duel. D'un côté, donc, le général Delattre de Tassigny, un ancien vichiste qui a rallié la cause gaulliste en 1943. Delattre a participé au débarquement des forces alliées en Provence le 15 août 1944 à la tête de la première armée, disons l'armée française libre.
15 août 1944. L'immense armada en route pour la terre de France. Au milieu des milliers de navires de toutes sortes, avance le SS Battery, au mât duquel flotte le fanion frappé aux 5 étoiles du général commandant les forces françaises de débarquement.
De l'autre, le général Leclerc, gaulliste de la toute première heure.
Le général Leclerc me charge de vous dire, tenez bon, nous arrivons.
Entré le premier dans Paris, avec sa deuxième DB, il est couvert de gloire. Delattre, qui remonte avec ses troupes depuis la Côte d'Azur, veut être le libérateur de Strasbourg. Mais Leclerc compte bien lui damer le pion. Qu'est-ce que ça nous révèle de Leclerc ?
Ça nous enseigne le fait que cet homme est doté d'un tempérament de feu, auquel il laisse assez largement libre cours, parce qu'il sait qu'il est devenu Leclerc. Il a confiance en lui, il a confiance en la confiance de De Gaulle, il sait qu'à la fin, s'il faut une protection, De Gaulle la lui accordera. Et donc, du point de vue des hommes qui ont eu à le commander, à ce moment-là, que ces hommes soient français, Delattre ou américains, c'est un casse-pied qui souvent n'en fait qu'à sa tête. Le problème, c'est qu'il réussit, vous comprenez ? Donc, oui, il transgresse un peu les ordres, oui, il n'en fait qu'à sa tête, mais à la fin, il gagne, il réussit. Alors, que peut-on lui opposer ? Rien.
Décidément, vous ne changerez jamais. Allez, foutez-moi le camp.
Oui, mon général.
La course est lancée. Delattre et Leclerc se précipitent l'un et l'autre vers Strasbourg. Un duel bien plus politique que militaire.
Partout où l'ennemi s'accroche, la lutte s'engage. À la lisière des forêts, au débouché des cols, l'artillerie motorisée crache son feu. Le bruit du canon rebondit de sapin en sapin. Et de l'autre côté de ces collines, il va rouler sur la plaine d'Alsace comme un grand cri d'espérance. Nous arrivons.
Après plusieurs jours de combat contre les troupes de la Wehrmacht, le 23 novembre 1944, les vieux grognards de la 2e DB se ruent sur la capitale alsacienne. Leclerc a pris Delattre de court.
Dans le soir qui tombe, la joie éclate. Les Alsaciens acclament ces soldats venus pour eux de toutes les régions de la France et de son empire. La plus personnelle de nos provinces, c'est être aussi la plus française. Ces bravos, ces cris retentissent dans le cœur du pays tout entier. Strasbourg est libre. Toute la France a crié ces mots, frémit de cette joie. Et c'est toute la France qui salue ce premier drapeau qui marche à travers une ville dont les faubourgs débouchent sur le Rhin.
À mon commandement !
Ordre du jour de Leclerc le 25 novembre 1944. Officiers, sous-officiers et soldats de la 2e DB. En 5 jours, vous avez traversé les Vosges, malgré les défenses ennemies, et libéré Strasbourg. Le serment de Couffrat est tenu. Vous avez infligé à l'ennemi des pertes très sévères, fait plus de 9000 prisonniers, détruit un matériel innombrable et désorganiser le dispositif allemand. Enfin et surtout, vous avez chassé l'envahisseur de la capitale de notre Alsace, rendant ainsi à la France et à son armée le prestige d'hier. Au nom du général de Gaulle et de la France, je vous en remercie. Nos camarades tombés sont morts en héros. Honorons leur mémoire.
Vosgien Gabriel, sergent.
Mort au champ d'honneur.
Yazanov, caporal.
Mort au champ d'honneur.
Oumrani Belkhair, premier sapeur.
Mort au champ d'honneur.
Ben Simon Eli, deuxième sapeur.
Mort au champ d'honneur.
Après Koufra, le Fetzan, la Normandie et Paris, Leclerc a donc libéré Strasbourg. Mais il est furieux, car il a bien failli être privé de son exploit. D'ailleurs, la radio a annoncé que c'était l'œuvre du général Delattre et de sa première armée. Excédé, Leclerc écrit à son ami René Pleven, lui aussi gaulliste de la première heure et intime du général de Gaulle.
Une heure après la victoire, un ordre me parvenait me demandant de ne pas prendre Strasbourg, réservé au général Delattre. C'est grotesque et criminel, car deux jours de perdu et les Allemands auraient tenu. Sans commentaire.
Alors, effectivement, c'est la 2e division blindée qui libère Strasbourg le 23 novembre 1944, alors que, effectivement, probablement que Delattre aurait aimé ce symbole, à défaut d'avoir le symbole de Paris.
Claire Millot.
Mais là où ça devient un enjeu, c'est qu'en fait, très vite, Strasbourg est menacée de toute façon par la contre-offensive allemande à partir de décembre 1944 et surtout en janvier 1945. Et c'est Delattre, pour le coup, c'est la première armée française qui prendra à sa charge la défense de Strasbourg. Et c'est De Gaulle, hein, d'ailleurs, qui dit à Delattre, vous défendrez Strasbourg quoi qu'il en coûte. Il est inimaginable d'un point de vue symbolique pour De Gaulle de laisser Strasbourg. C'est très clair.
Récapitulons. C'est donc Leclerc qui a libéré Strasbourg, après quoi Delattre a été relégué à la défense de la ville. Il est ivre de colère. Car ayez en tête que dans la hiérarchie militaire, Leclerc est subordonné à Delattre.
Le patron ici, c'est moi. C'est moi qui donne les ordres.
Delattre est un général 5 étoiles. Leclerc, lui, n'en a que 3. Et donc, pour s'emparer de la capitale alsacienne, Leclerc n'a pas respecté les ordres. La situation devient explosive.
À partir de là, effectivement, les tensions vont aller croissant, en particulier à partir de décembre 1944. Leclerc va écrire des lettres à De Gaulle pour lui demander d'être retiré du commandement du général Delattre de Tassigny. Il va même écrire aussi aux Américains. C'est dire à quel point le linge sale, ça se lave plus en famille. On expose aussi les Américains. Alors, les arguments, il y a les arguments qu'avance Leclerc, c'est-à-dire que Delattre prend des mauvaises décisions d'un point de vue stratégique, enfin opérationnel plutôt, qu'il expose les anciens de la France libre à un bain de sang, et voilà. Donc les accusations sont très nombreuses. Alors sur cette accusation, notamment faire des anciens FFL de la chair à canon, je ne sais pas très bien quoi en penser, parce que en réalité, c'est plutôt qu'on est de toute façon dans une situation de crise en fait en décembre 1944, c'est-à-dire que effectivement le front s'enlise, on n'en sort pas, il fait moins 30 dans les Vosges, de fait les pertes sont considérables, mais en y regardant de plus près, les Français libres ne perdent pas plus d'hommes que le reste en fait, des divisions. Mais ce qui est sûr, et ce qu'a rappelé mon collègue Jean-François Murassol, c'est qu'à partir du moment où les FFL sont en Europe, les pertes sont d'une manière générale beaucoup plus importantes que sur les fronts africains. Donc voilà, cette accusation faite à Delattre d'être peu économe du sang de ces hommes en général et des anciens FFL en particulier, je ne sais pas si ça résiste à la réalité des chiffres. En réalité, à mon avis, ça dit autre chose. Ça dit surtout que, effectivement, les anciens Français libres sont en train de commencer à se compter dans leur rang. Parce que, de fait, il y a des pertes. Et donc, les anciens de la France libre, eh bien, ils sont de moins en moins nombreux. Et donc, il y a aussi cette peur, au fond, eh bien, de voir son identité diluée dans cette armée de Delattre, où il y a des anciens de l'armée d'Afrique et où il y a aussi des FFI avec qui les relations sont en fait pas très bonnes, en réalité.
Pour résumer, les FFI sont plutôt communistes et les FFL gaullistes. Donc les relations au sein de l'armée de libération sont tendues. Et par ailleurs, Leclerc reproche à Delattre de maltraiter les hommes de la France libre, les FFL. Autrement dit, les soldats qui ont rejoint De Gaulle dès 1940 ou 1941.
On libère le pays. Et on rentre chez nous.
Charles. D'autre part, Leclerc refuse l'autorité du général Delattre car il redoute une marginalisation de sa 2e DB au sein de la 1ère armée française. De retour dans l'Hexagone, Leclerc est confronté aux FFI qui ont gagné en influence et avec qui il faut désormais composer.
Ces FFL et ce Leclerc, ils rencontrent une autre légitimité en France métropolitaine. Une légitimité politique qui est celle des FFI, en fait, qui eux aussi ont fait le choix de la résistance. Et sont beaucoup plus connus, pas forcément appréciés, mais en tout cas beaucoup plus connus de l'opinion publique française.
Et intégrés à la société, finalement.
Exactement. Alors que ces hommes qui reviennent d'exil, que sont les Français libres, bah, personne ne les connaît réellement. Ces Français libres connaissent aussi très peu ce qui s'est passé en métropole. Donc le quiproquo, les tensions, les amertumes sont en fait très très importantes. Et je crois que c'est là aussi que se joue quelque chose. On a des témoignages de chefs FFI qui apprécient très peu Leclerc, justement parce que, au fond, il y a une compétition autour de qui a la légitimité. Pour le coup, qui a la légitimité autour de l'acte résistant, finalement.
Parole rapportée du général de Gaulle par Paul de Langlade. Le 22 décembre 1944. Vous direz au général Leclerc que l'ordre intérieur de la France est de mon ressort et non du sien. Quant à sa subordination au général de Lattre, vous lui direz que je lui donne l'ordre d'obéir. Une fois de plus, il veut n'en faire qu'à sa tête, et bien non, qu'il me laisse en paix et qu'il fasse ce qu'on lui dit de faire. Où irions-nous si tous mes subordonnés civils ou militaires agissaient comme lui ? En voilà assez. Vous pouvez vous retirer.
Qu'est-ce que vous pensez du rôle de Gaulle dans cette rivalité entre les deux hommes ?
C'est difficile à dire. En tout cas, ce que je vois, c'est que les lettres envoyées par Leclerc à De Gaulle, il me semble, restent lettres mortes. Enfin, il ne donne pas suite, en fait, aux demandes de Leclerc. Pour le reste, c'est difficile à dire. Moi, je pense que, de toute façon, De Gaulle, il a un projet politique, c'est-à-dire que son projet, c'est de rétablir l'unité.
La nation n'admettrait pas, dans la situation où elle se trouve, que cette unité-là soit rompue.
Charles de Gaulle, 25 août 1944.
La nation sait bien qu'il lui faut pour vaincre, pour se reconstruire et pour être grande, que ses fils et ses filles marchent fraternellement pour les buts de la France, la main dans la main.
Et donc, pour rétablir l'unité, il ne peut pas s'appuyer que sur la figure de l'intransigeance. Il est très clairement obligé de s'appuyer sur des figures comme de Lattre de Tassigny, qui, au fond, incarne l'aile, disons, girodiste, c'est-à-dire pas l'aile trop vichiste, girodiste, voilà. Il est obligé, parce qu'en fait, d'un point de vue des effectifs, c'est la masse. Et donc, il ne peut pas, encore une fois, uniquement s'appuyer sur Leclerc.
Quand vous dites giraudiste, c'est donc le général Giraud, bien sûr.
Oui, c'est par référence au fait que, au fond, une partie de l'armée française, à partir de novembre 1942, va comprendre qu'effectivement, Pétain ne peut plus être la solution pour continuer le combat contre l'Allemagne, ou en tout cas reprendre le combat contre l'Allemagne, et donc va, disons, mettre tous ses espoirs dans la figure du général Giraud. D'où une division de l'armée française qui va, au fond, basculer vers une division entre camp giraudiste et camp gaulliste. Voilà.
Et donc, toute la difficulté du général de Gaulle après, c'est en effet de créer l'amalgame entre ces anciens vichistes, entre guillemets, et ces FFL de la première heure. C'est qu'il faut associer des hommes qui avaient fait le mauvais choix à ceux qui ont fait le bon choix, mais que pour de Gaulle, l'important, c'est l'union, évidemment.
Oui, il est obligé, au fond, de trouver un plus petit dénominateur commun qui est, au fond, le combat contre un ennemi commun. Donc, il est obligé, encore une fois, de s'appuyer sur le général de Lattre, qui est relativement apprécié des FFI, contrairement à Leclerc.
Le général de Gaulle a récemment décidé que les forces françaises de l'intérieur étaient une partie intégrante de l'armée.
Général de Lattre de Tassigny, décembre 1944.
Très vite déjà, tous, ceux des divisions blindées, des divisions d'infanterie, des goumes, et ceux de nos maquis, de toutes ces troupes des forces françaises de l'intérieur, se sont bien compris. Comment auraient-ils pu ne pas se comprendre et ne pas s'aimer ? Ils ont le même but, faire la guerre, chasser l'ennemi. Ils ont la même confiance dans la victoire totale.
Telle est, mes chers amis, l'armée que j'ai l'honneur de mener à la bataille.
Là où Delattre a bien compris les enjeux politiques gaullistes, Leclerc, lui, se montre intransigeant, au point qu'il est puni, en quelque sorte, puisque De Gaulle lui refuse le droit d'entrer en Allemagne avec sa deuxième DB. Delattre a eu gain de cause.
Pour le coup, les deux hommes-là ne se côtoient plus puisque la deuxième DB est envoyée après la libération donc, de Colmar, qui en gros clôt la bataille d'Alsace. Hein, donc on entre dans une période un peu d'attente avant l'entrée en Allemagne. Et à ce moment-là, la deuxième DB est envoyée dans les poches de l'Atlantique, et en particulier à Royan, poche de l'Atlantique, qui était encore occupée hein, par un certain nombre d'unités allemandes. Et donc effectivement, c'est bien la première armée qui entre en Allemagne à la fin du mois de mars 1945 et qui fait ce qu'on appellerait effectivement la campagne d'Allemagne, ce mois d'avril très très court hein, où les soldats combattent réellement d'ailleurs hein, en Allemagne du Sud. Donc là, les destins un peu se séparent et effectivement, il y a ce sentiment chez les anciens Français libres d'avoir été un peu coupés de cette entrée symbolique en Allemagne. Tout cela va nourrir un sentiment de relégation, de marginalisation de la part de ces anciens dissidents. Voilà.
Mars 1945, la première armée française, sous les ordres du général Delattre, borde le Rhin de Spire à la frontière suisse. Elle vit dans l'attente fiévreuse de franchir le Rhin. Franchir le Rhin, c'est là toute sa pensée, toute sa volonté depuis son débarquement sur les côtes de Provence. Elle veut délivrer nos prisonniers et nos déportés, laver la souillure de 1940 et porter le coup de grâce à la Wehrmacht au cœur même du Reich allemand.
Résumons. Après la libération de Strasbourg, la 2e DB est officiellement mise au repos. En réalité, elle est retirée du front pour réprimander les insubordinations de Leclerc face à Delattre pendant la libération de Colmar. D'autant que les Américains se sont rangés du côté de Delattre, excédés eux aussi par l'insoumission de Leclerc.
Je n'ai aucun goût pour les mascarades. L'armée n'est pas un cirque. Il est temps qu'on vous la prenne et je vais m'en charger.
Et comme il reste des bastions de l'armée allemande sur le territoire français, De Gaulle a chargé Leclerc de sécuriser certaines zones.
On l'envoie méditer à Châteauroux.
Au début du mois d'avril 1945, la 2e DB est entre Châteauroux et Royan.
Géraud Létang, historien.
Donc, Leclerc, lui, veut revenir en Allemagne, parce qu'il y a cette idée, après Paris, Strasbourg, il faut que la 2e DB entre en Allemagne. Mais voilà, il y a eu les incidents de Colmar, hein, Leclerc voulant s'émanciper de la tutelle de Delattre en parlant aux Américains sans en référer à De Gaulle. Or, Leclerc, à ce moment-là, n'a pas compris que tout le monde a changé de dimension. De Gaulle, Delattre, et lui. D'où ce purgatoire, en quelque sorte, qui n'est pas un long purgatoire, hein, vu que c'est juste 2 mois. Leclerc obtient que la 2e DB entre en Allemagne en avril 1945, tant qu'il y a des combats, tant que la capitulation allemande n'est pas arrachée.
En avril 1945, en effet, Leclerc obtient une faveur des Américains. Une faveur validée par De Gaulle, la 2e DB est autorisée à franchir le Rhin. Et comble de joie pour Leclerc, la division est placée sous commandement américain, c'est-à-dire très loin du général Delattre.
Leclerc sait qu'il n'ira pas à Berlin, c'est évident. Leclerc sait que l'armée Delattre est beaucoup plus importante que sa propre troupe, donc il est normal que ce soit autour d'elle que se fasse l'occupation française en Allemagne. Mais Leclerc réclame un objectif symbolique, et pour lui, c'est le nid d'aigle d'Hitler, donc le Berghof, au-dessus de Berchtesgaden.
Archives RTF, mai 1945.
La 3e division de la 7e armée américaine, commandée par le général Patch, s'est emparée hier de Berchtesgaden avec le groupement tactique Vatabio de la division Leclerc.
Les Américains voient débarquer Leclerc, vont disperser son unité dans plusieurs corps d'armée, mais Leclerc joue sur cette dispersion pour s'arranger pour que une de ses unités de la 2e DB dispersée vers la Bavière, non seulement ne s'arrête pas dans la ville de Berchtesgaden, mais continue sur la petite route qui mène vers le sommet de la montagne. Et c'est ainsi que dans la nuit du 4 mai 1945, le capitaine Tueras de la 2e DB arrive dans le nid d'aigle d'Hitler, et le 5 mai 1945, au matin, alors que les Américains s'apprêtent à y faire flotter la bannière étoilée, c'est un drapeau tricolore qui flotte sur le nid d'aigle d'Hitler.
La division Leclerc n'était jamais venue en Allemagne, et la voici maintenant en Allemagne, et elle a réussi un coup d'éclat épatant, puisque maintenant ils ont réussi à prendre Berchtesgaden et même la résidence d'Hitler.
Là encore, c'est un objectif symbolique auquel Leclerc a pensé, parce que derrière, Leclerc voit évidemment la crédibilité, la reconstruction morale de la France à travers cet effacement de l'humiliation de 1940.
Après la prise de Berlin, voici que maintenant, la maison particulière, le lieu de retraite de Hitler et de ses acolytes, est forcée, brisée et occupée par nous, par nos alliés.
Berchtesgaden, c'est donc une petite ville des Alpes bavaroises. Mais la maison d'Hitler ne s'y trouvait pas. Il fallait grimper en altitude pour atteindre une résidence appelée le Berghof.
Cette maison, que vous avez peut-être vue au cinéma lors des réceptions du Führer, est située face au plus haut sommet des Alpes bavaroises. Le balcon est large et ceinture la maison. Les pièces sont dans un luxe inouï. On a trouvé par exemple des Renoir, des Rubens, ainsi que des tapis inestimables. Dans la cave, on a trouvé tout à l'heure 37 000 bouteilles de vin français. Hitler, qui passait pour un spartiate, nous a vraiment déçus. Évidemment, de temps en temps, une bonne bouteille de vin français ne fait pas de mal.
Et à quelques kilomètres du Berghof, encore un peu plus haut, posé sur un éperon rocheux, on trouvait le nid d'aigle, le chalet personnel du Führer, un nouvel objectif pour Leclerc.
Nous n'avons pas pu monter au nid d'aigle avec la voiture, car on ne peut maintenant y accéder que par un petit sentier de mulets. Mais auparavant, un ascenseur creusé dans la montagne permettait au chancelier et à ses hôtes de grimper là-haut sans fatigue. Il faut à pied 3 heures de marche pour y accéder. Toute cette petite région montagnarde était solidement gardée par les SS, la garde d'honneur impitoyable du Führer. Dans la caserne des SS, 4000 officiers américains étaient prisonniers. Ils ont été libérés. Par contre, un général allemand a été fait prisonnier par la division Leclerc. Chacun son tour.
Toute l'épopée de Leclerc était incroyable. Honnêtement, c'est un parcours hallucinant. Mais effectivement, avoir ce point final d'épopée en forme de point d'orgue, de énième point d'orgue à Berchtesgaden, c'est extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire.
Puisque aujourd'hui nous fêtons ici à Berchtesgaden la capitulation, remercions de tout notre cœur ceux qui ont contribué à nous donner le droit d'être fiers de nous.
L'ennemi allemand vient de capituler devant les armées alliées de l'Ouest et de l'Est.
Charles de Gaulle.
L'Allemagne est abattue et elle a signé son désastre. Honneur. Honneur pour toujours à nos armées et à leurs chefs.
À mon commandement.
Ordre du jour de Leclerc du 8 mai 1945 à Berchtesgaden. Officiers, sous-officiers et soldats de la 2e division blindée. L'ennemi a capitulé. Du Tchad à Berchtesgaden, partout vous l'avez battu. Au nom de la France, je vous en remercie et je vous demande de montrer au service du pays la même énergie demain dans la paix qu'hier dans la guerre. Vive le général de Gaulle. Vive la France.
Ah, vive la France !
Division de fer, toujours souriant, les gars de Leclerc passent en chantant. DB, vive la deuxième DB.
Le 8 mai 1945, l'Allemagne a capitulé et la guerre en Europe est donc finie. Leclerc et sa division sont basés à Bad Reichenhall, dans le sud-est de la Bavière. Et ce jour-là, le 8 mai, il s'est passé quelque chose à Bad Reichenhall qui demeure encore aujourd'hui très nébuleux. Géraud l'étend.
Ce qu'on sait, c'est que le 8 mai 1945, 12 Waffen-SS français dans la ville de Bad Reichenhall, où Leclerc a installé son quartier général, ont été fusillés. Voilà ce qu'on sait. On ne connaît pas l'identité de tous. On n'a pas d'archives, dans les archives de la 2e DB, de documents expliquant cela. À partir de là, comment l'expliquer, comment comprendre ? Des Waffen-SS sont abattus à ce moment-là par les troupes alliées, puisque certains essaient de se cacher au moment où la victoire des alliés contre le Reich est consommée, définitive et absolue. Donc il y a un phénomène de fuite, et certains vont être retrouvés et mourir dans des accrochages avec les alliés. C'est peut-être ce qui s'est passé. En 1975, un journaliste qui s'appelle Jean Mabir, qui est proche des milieux, on dirait aujourd'hui, identitaires, avec une extrême droite qui s'est renouvelée en pensant des questions de race européenne pour mieux l'opposer aux races africaines, va faire un livre d'histoire des Waffen-SS français, mais d'histoire extrêmement compréhensive, pour ne pas dire hagiographique. Par conséquent, un des derniers chapitres de sa trilogie sur les SS français, qu'il présente comme des hommes courageux, gardiens d'un idéal européen et d'un ordre que le communisme menace, enfin une rhétorique d'extrême droite somme toute classique, ont été fusillés sur ordre de Leclerc par des hommes de la 2e DB, parce que durant une discussion à Leclerc qui leur aurait demandé s'ils avaient honte de combattre sous uniforme allemand, ces Waffen-SS lui auraient répondu « Est-il honte, lui, de combattre sous uniforme américain ?» Et que ce témoignage aurait été corroboré par un aumônier qui aurait entendu l'aumônier divisionnaire de la division en parler. Donc, on n'en sait pas plus. Ce qui pose problème dans cette histoire de Bad Reichenhall, c'est que, à la fois, on n'a pas de traces. Mais bon, après tout, quand une troupe commet un crime de guerre, elle sait qu'elle commet un crime de guerre. Par conséquent, elle ne veut pas faire des rapports très officiels dessus. On n'a pas de traces dans les archives américaines de cela. Et par ailleurs, l'échange entre Leclerc et les Waffen-SS ressemble beaucoup au discours propagandiste de cette extrême droite des années 30. Donc, c'est quand même un peu suspect. Alors, sans doute, on aura beaucoup de mal à savoir d'où viennent les corps de ces 12 Français dans ce cimetière non loin de Bad Reichenhall. Mais en tous les cas, sur cette question de ces Waffen-SS français, on en est réduit à des hypothèses, mais des hypothèses d'autant plus vagues qu'il y a derrière l'accusation une très, très lourde charge idéologique de la part de l'extrême droite qui, en fait, n'a jamais pardonné à Leclerc ce qu'elle considère comme une trahison lorsqu'il a rejoint la France libre.
Cette affaire des 12 Waffen-SS français, exécutés en mai 1945, demeure très floue. Mais elle a surtout été très utile à l'extrême droite des années 70 pour dénigrer Leclerc, jugé comme un traître par les nationalistes. Gardez en tête que la droite extrême a toujours vomi le gaullisme. Par ailleurs, durant cette campagne d'Allemagne, en avril-mai 1945, la 2e division blindée a découvert la nature mortifère du régime nazi avec son univers concentrationnaire.
Dachau, c'est là que les prisonniers politiques, les déportés de toute nationalité, furent torturés jusqu'à ce que mort s'ensuive. C'est là qu'ils virent pour la dernière fois le ciel et tout ce qui peut rappeler la vie.
Alors, en fait, c'est une découverte qui se fait progressivement. Tout d'abord, fin avril 1945, des éléments isolés de la 2e DB veulent entrer dans Dachau pour des raisons militaires, parce qu'ils combattent dans la région et il s'agit de neutraliser certaines unités allemandes qu'ils suspectent de combattre encore sur place. Dachau, c'est une petite ville très agréable de la banlieue de Munich, et en entrant dans cette ville, un officier et trois soldats du régiment de marche du Tchad découvrent des wagons avec des déportés mitraillés dedans. Dachau, à ce moment-là, les Américains sont déjà dans le camp, mais l'ont fermé immédiatement en raison d'une épidémie de typhus. Ces quatre soldats de la 2e DB vont réussir à rentrer par le mur et vont découvrir toute l'horreur de Dachau qui vient d'être libéré, mais dont les prisonniers continuent à mourir parce qu'ils ne peuvent pas sortir en raison de cette épidémie de typhus, parce que les derniers mois de captivité, de déportation ont été le summum de l'horreur en réalité. Donc ce premier contact avec Dachau se fait fin avril.
Dachau s'est révélé à nos yeux dans toute son horreur, dans toute sa brutale réalité.
Archives RTF, 11 mai 1945.
À côté, le four crématoire, gigantesque bouche de feu, où l'on brûlait environ 200 cadavres par jour. Je dis cadavres, mais quelquefois les hommes étaient encore vivants. C'est atroce, révoltant et irréalisable. Croyez-nous cependant, car nous vous assurons que c'est la réalité. Les prisonniers sont habillés comme des bagnards, en veste et pantalons de toile, rayés de bleu sur fond blanc. Ils sont maigres, à faire peur, mais ils conservent malgré tout toute leur énergie. Maintenant, le cauchemar est terminé.
Puis, au tout début du mois de mai, Jacques Massu est dans les parages et cette fois-ci appelle Leclerc en disant qu'il faut qu'il vienne alors qu'il est à Berchtesgaden. À Dachau en raison de la gravité de ce qui se passe et parce qu'il y a 6000 Français sur les 30 000 prisonniers encore présents dans le camp. Leclerc, aux alentours du 15 mai, arrive à Dachau. Il va même entrer dans le camp le 18 mai, va être accueilli par celui qui est la figure principale des Français, c'est-à-dire Edmond Michelet, futur ministre de la 4e République. Et Edmond Michelet va parler aux officiers de la 2e DB pour dire toute l'horreur qui s'est passée à cet endroit. Et donc, pour Leclerc, c'est la prise de conscience qu'il y a une souffrance indicible dans cette Seconde Guerre mondiale qui vient d'avoir lieu. Que lui a eu la chance de combattre alors que d'autres ont été confrontés à ce crime contre l'humanité. Donc pour Leclerc, c'est aussi une évolution, une prise de conscience que le nazisme n'attaque pas seulement les nations, il attaque aussi les individus et même l'humanité en général.
Souvenons-nous de notre joie bouleversante lorsque nos oreilles, depuis si longtemps attentive, perçurent enfin le bruit sourd des canons de la délivrance.
Edmond Michelet, 1946.
Souvenons-nous de notre allégresse lorsque, sur les pas de nos alliés américains, arrivèrent nos frères, les soldats du général Leclerc, suivis par ceux de la première armée du général Delattre. Souvenons-nous de notre émotion lorsque nous aperçûmes les premiers fanions tricolores sur les camions de la première DB et notre fierté devant ces combattants d'une guerre moins sordide que la nôtre. Comme nous avons senti alors l'affectueuse fraternité des combattants français.
Allocution aux déportés du général Leclerc dans le camp de concentration de Dachau le 18 mai 1945. Nous avons lutté pour la même cause. Nous sommes passés par les mêmes phases. Éloignés les uns et les autres de la France, sans nouvelles des nôtres, la souffrance a été glorieuse pour nous, dure et humiliante pour vous. Votre souffrance dans le silence vous confère plus de mérite qu'à nous qui étions soulevés par l'enthousiasme.
C'est un discours très bref, donc sans doute qui témoigne, je pense, d'une forme d'émotion de la part de Leclerc qui ne s'attendait pas à faire une telle découverte. C'est aussi sans doute une émotion qui vient du fait que Leclerc prend, là encore, conscience que la déprise de la guerre sera très compliquée face à de tels traumatismes, face à de tels événements, que ce sera la reconstruction ne sera pas uniquement politique, économique ou militaire, il y a une dimension de reconstruction morale.
De retour à Paris, fin mai 1945, Leclerc s'installe à l'hôtel Bristol, rue du Faubourg Saint-Honoré, d'où il prépare le grand défilé de la victoire qui a lieu le 18 juin 1945.
Voici les chars. À leur tête, le général Leclerc descend ses Champs-Élysées que sa division parcourut le jour où Paris chassait l'occupant.
Et puis, quatre jours plus tard, à Fontainebleau, le 22 juin 1945, devant tous ses soldats réunis, le général Leclerc prononce un discours un peu particulier, un discours d'adieu enregistré sur place.
Officiers, sous-officiers, soldats de la 2e division blindée, il y a quelques jours, j'avais l'honneur de défiler à votre tête dans ce Paris que nous avons libéré. Aujourd'hui, je viens vous faire mes adieux. Appelé par le général de Gaulle, ainsi que le général de Langlade, à d'autres fonctions, je quitte le commandement de cette division.
Oh, c'est un discours qui est bouleversant, qui a bouleversé, un discours en fait d'avenir et d'espoir. C'est-à-dire qu'il s'adresse aux hommes de sa division, il les confie à Diot, un Français libre de la première heure, mon vieux Diot comme il l'appelait. Vous savez ce qu'il a dit à Diot à Strasbourg ? Maintenant, mon vieux Diot, on peut tous crever. On a fait ce qu'il fallait faire, on peut tous crever. Bon. Donc il les confie à quelqu'un en qui il a une absolue confiance, mais il leur dit, plus tard, dans les moments de doute, dans les moments d'incertitude, lorsque vous chercherez la voie, songez à ce que nous avons accompli, laissez revenir en vous l'esprit de la France libre et vous trouverez la solution.
Quand vous sentirez votre énergie fléchir, rappelez-vous, Koufra, Alençon, Paris, Strasbourg. Retrouvez vos camarades, recherchez vos chefs et continuez en répandant dans le pays le patriotisme qui a fait notre force.
Et donc c'est un discours, évidemment, de séparation, mais en même temps un discours d'amour d'un chef à ses hommes, et aussi un discours d'espoir et d'avenir.
Où part Leclerc, puisqu'il quitte ses hommes ?
Alors Leclerc part en Indochine, parce qu'il a été nommé commandant en chef des troupes françaises qui vont se réinstaller en Indochine, dans une situation extrêmement compliquée, puisque c'est une situation à la fois pré-insurrectionnelle indochinoise, dans une péninsule indochinoise qui est tenue au sud par les Britanniques et au nord par les Chinois. C'est dire qu'il ne reste pas beaucoup de place pour la force coloniale française et pour la présence coloniale française. Et donc Leclerc part à la tête des quelques troupes que la France peut envoyer à ce moment-là, vers l'Indochine.
En conclusion de ce 6e épisode, ayez en tête que la campagne d'Alsace, puis l'entrée en Allemagne jusqu'au nid d'aigle d'Hitler, ont scellé la gloire du général Leclerc et des hommes de sa division.
Pour Leclerc, il pipi.
Ouais ! Néanmoins, Leclerc a dû s'opposer au général Delattre de Tassigny. Et dans cet affrontement très politique, il ne s'est pas montré suffisamment stratège, en se révélant impulsif, impatient et trop intransigeant. Au jeu des intrigues et des impératifs politiques, Leclerc ne se révèle pas à son aise. Ce qui n'empêche pas le général de Gaulle de lui confier une mission hautement stratégique.
Le général de Gaulle m'a demandé de replanter notre drapeau en Indochine. J'exécuterai ses ordres.
Après son épopée victorieuse de libérateur, à quoi ressemble l'expédition indochinoise du général Leclerc ? C'est l'horizon du prochain épisode. La cavale du général Leclerc. Un récit de Philippe Collin, réalisé par Juliette Medevielle. Lecture, Anne Kessler et Laurent Stocker, sociétaires de la Comédie Française. Assistance éditoriale, Irène Menahem, assistée de Léonie Ferré. Documentation sonore, Frédéric Martin. Mixage, Basile Bocquer, Cédric Diallo. Prochain épisode, dans les brumes de Saïgon. La cavale du général Leclerc, est un podcast original de France Inter.